Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, une invitée revient sur un jour important de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Sana Yazighi. Bonjour Sana Yazighi.
Bonjour Zoé.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Sana Yazighi, vous êtes graphiste.
Tout à fait.
Vous avez fait les Beaux-Arts de Damas.
Exactement.
Et vous êtes la fondatrice du site Creative Memory, en français, la mémoire créative de la révolution syrienne. Qu'est-ce que c'est que ce site, Sana Yazighi?
C'est un projet pour collecter, pour documenter, pour archiver toute forme d'expression libre qui ont eu lieu en début de la révolution et jusqu'à nos jours. Sur le site actuel, il y a 22 catégories différentes dans lesquelles on fournit les œuvres et leurs documents. Et donc on a, si on parle de la langue arabe, des œuvres originales, il y a plus de 10 000 œuvres traduites et documentées dans les trois langues.
C'est ça, Sana Yazighi, vous avez collecté toutes les œuvres, toute l'expression créatrice de cette révolution syrienne que vous avez archivée, nommée, classée sur un site qui s'appelle Creative Memory.
Tout à fait.
Sana Yazighi, vous avez choisi comme journée particulière le 17 mars 2019. Ce jour-là, vous perdiez votre mère. Sana Yazighi, pourquoi avez-vous choisi cette voix magnifique et qui est-elle pour commencer cette émission?
C'est la fameuse chanteuse Asmahan qui vient du sud de la Syrie, de la famille Atrash qui est une famille très grande et très connue dans cette région de la Syrie. Et ma mère vient de là-bas. Donc ma mère aimait beaucoup Asmahan, elle entendait beaucoup ses chansons. Mais encore une fois, pourquoi j'ai choisi cette chanson-là? C'est une des chansons qu'elle écoutait. C'est parce que c'est le jardin. C'est parce que c'est les oiseaux.
Ouais.
Moi, j'adore le jardin. Mes parents aussi. J'adore planter. J'adore les fleurs. J'adore les odeurs. Mes parents aussi. Et parce que le jardin, ça nous apporte beaucoup de choses. Et dès qu'on rentre, on rêve. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Dans cette chanson, il y a les oiseaux. Et qui sont toujours associés avec la liberté de voler sans obstacle. Mais dans cette chanson aussi, il y a l'amour, deux oiseaux amoureux. Il y a aussi la trahison. Il y a la beauté, mais il y a aussi l'abandon et il y a la mort. Et tout ça, sur l'aspect symbolique, me disait beaucoup de choses. Et je voulais, en le mettant, provoquer aussi beaucoup de choses qui sont à la fois individuelles et collectives.
C'est ça, Sana Yazighi, parce que la mort de votre mère est pour vous à la fois un événement intime et un événement collectif. Il faut préciser que votre mère était en Syrie et qu'elle est morte accidentellement. Elle n'a pas été victime de la guerre, mais vous avez été étonné des réactions de vos amis
quand ils ont appris la disparition de votre mère. C'est comme ça que votre réflexion a commencé, Sana Yazighi.
En fait, c'est plusieurs choses, c'est certainement ça, mais aussi, pour moi, mes deux parents, je n'ai pas pu me rendre sur place pour les funérailles. Donc, jusqu'à maintenant, pour moi, ils sont plutôt disparus. C'est des disparus pour moi. J'arrive pas à réaliser parce que je n'ai pas touché. La mort, pour moi, n'est toujours pas physique. Donc, psychologiquement, pour moi, j'ai parlé avec ma mère il y a quelques jours et là, elle n'est plus là. Donc pour moi, elle n'est plus là, elle n'est pas morte. Je ne peux pas réaliser. Déjà, on sait très bien que l'idée de la mort est difficile à réaliser, qu'on est pieux ou pas pieux. De toute façon, on n'arrive pas à réaliser et à accepter la mort. Rajoutant à tout cela, notre actualité, notre tragique en tant que Syrien. Moi, parce que je suis opposante à ce régime, je ne peux pas me rendre en Syrie. Il m'est interdit de me rendre. Et ça aussi, ce qui se passe et ce qui s'est passé avec des milliers de Syriens. Et si j'évoque encore une fois cette expérience, cette épreuve personnelle, individuelle, c'est pour aussi me mettre et de rappeler les épreuves terribles que vivent beaucoup, beaucoup, énormément de Syriens en entendant leurs disparus. Surtout et avant tout dans les prisons du régime, mais aussi chez pas mal des fractions armées.
Plus de 200 000 disparus, des personnes, on ne sait pas si elles sont encore emprisonnées, torturées en prison, ou si elles sont...
Exactement.
Elles n'existent plus.
C'est ça qui est terrible, c'est l'attente. C'est comme si notre vie est suspendue en entendant quelque chose. Et moi, j'ai entendu parler beaucoup de Syriens. Je les ai entendus dire, vaut mieux une mauvaise nouvelle que cet état d'attente.
Cet état d'attente dans lequel vous êtes, vous aussi, Sana Yazighi. Et comme ça, la mort de votre mère a réveillé toute la douleur de vos amis. Vous avez vu vos amis pleurer sur votre mère et pleurer sur eux-mêmes.
Exactement.
Sur quoi ont pleuré vos amis en apprenant la mort de votre mère? Sur quoi ils ont pleuré? Ils ont pleuré sur leur disparu?
C'est le manque. C'est l'impossibilité de rendre sur place, c'est l'absence de l'info de leurs proches qui sont disparus ou détenus, c'est l'attente, c'est la désespérance, c'est la tristesse énorme. Et aussi sur le plan symbolique, voyant la Syrie, notre Syrie qu'on connaît, disparaître. Mais aussi, je dois toujours, parce que moi je crois dans l'espoir, moi je garde toujours espoir. Et il faut peut-être rappeler aussi que la mort, il y a à côté de la mort, il y a la vie. Donc il faut toujours se rappeler de ça pour continuer à se battre.
راسي بح جسمي مربوط صوتي نبح لساني مقروط تلعب تح وشي بينكح شو هو الصح صغير وما بستاهل تلقوني بالقنابل في خبر يبدو عاجل عن حالي ماني سائل العب ممنوع إني العب ممنوع إني العب ممنوع لقدر يكون مقاتل برات البيت رقم مزبوط بعيون الناس ما في احساس وهذا الراس نلحكي مربوط راسي بح جسمي مربوط صوتي نبح لساني مقروط تلعب تح وشي بينكح شو هو الصح
Sana Yazighi, ça, on entend un groupe de rock syrien là qui s'appelle Cocotte Minute, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Tanjaret Dart.
Ça veut dire Cocotte Minute ?
Oui.
Et cette chanson, c'est Sous Pression.
Exactement.
Alors ça, c'est une chanson aussi qu'on peut trouver sur votre site Creative Memory. Qu'est-ce que dit cette chanson ?
Alors d'abord, ce groupe qui a commencé en étant pur syrien, à Damas en 2010... est devenu syro-libanais en 2012, en venant au Liban et en prenant évidemment beaucoup plus de liberté. En Syrie, il ne produisait que de la musique. Au Liban, c'est les mots qu'on a rajoutés et la musique de rock, évidemment. Je veux bien d'abord citer une de leurs déclarations très fortes. Ils disent « Le sang versé dans le monde arabe continue. Le plan visant à voler nos ressources, à changer notre identité et à nous forcer à accepter une réalité amère est en train de se concrétiser. Taht ad-dart, sous pression, est notre état perpétuel. Nous espérons des jours meilleurs. » Alors la chanson dit « À la maison, quelqu'un est sous pression. Dehors, il est un nombre parmi d'autres. Il n'y a pas de sentiment dans les yeux des gens. Et mon esprit a été meurtri et abattu par toutes les discussions. J'ai perdu ma tête, mon corps est attaché. J'ai perdu ma voix et ma langue. »
Merci Sana Yazighi. Donc ça, c'était les paroles et la traduction de la chanson du rock qu'on vient d'entendre. Le 17 mars 2019, c'est donc votre journée particulière jusqu'à 15h sur France Inter, Sana Yazighi. Je rappelle que vous êtes la fondatrice du site Creative Memory, la mémoire créative de la révolution syrienne. Le 17 mars 2019, vous perdiez accidentellement votre mère qui était restée en Syrie. Et il se trouve que la disparition de votre mère coïncide avec l'anniversaire du début de la révolution syrienne, le 17 mars 2011. On entend là une des manifestations au printemps 2011 et on entend la voix entre autres de Ibrahim Kachouch.
Tout à fait.
Qui est un des chanteurs connus de Syrie et qui a été un repère dans la révolution.
Alors elle est devenue très connue avec les manifestations. D'abord, il était méconnu. Sauf dans son milieu très restreint. Il était un chanteur comme n'importe quel autre chanteur populaire. Il chantait dans les mariages, dans les événements, dans les célébrations du quartier ou de sa ville. Ce n'est qu'avec la révolution qu'il est devenu très connu, avec ses chansons populaires qui sont devenues des chansons politiques, qui portaient des mots et des paroles des réclamations politiques, économiques et sociales.
Et ça, il a été évidemment torturé et assassiné pour avoir écrit, entre autres, les paroles de plusieurs des hymnes de cette révolution syrienne. Alors ça, ce qu'on vient d'entendre, on l'a beaucoup entendu dans les médias en France. On a beaucoup parlé, Sana Yazighi, d'Ibrahim Kachouch, mais on a beaucoup moins entendu ces sons qui disent la révolution au quotidien, dans la vie de tous les jours, comme dans les mariages, par exemple. Qu'est-ce qu'on entend là, Sanaya Zighi? C'est une chanson de mariage?
Exactement. C'est une chanson très connue. C'est une chanson et une danse à la fois qu'on appelle Joufia. La Joufia. Qu'on a un peu expliqué peut-être sur le site. Je ne suis pas certaine si on a expliqué de quoi il s'agit. Mais donc, cette chanson et ce type de danse est folklorique et populaire. On le voit, on le fait dans les mariages et aussi dans les célébrations populaires. Dans ce mariage, on a transformé cette chanson et cette danse à une petite manif.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est une vidéo. Hein,
c'est une vidéo.
Vous me l'avez montré. On voit les gens danser.
Chanter.
Et puis à un moment, les paroles se transforment. Et plutôt que de chanter ce chant traditionnel, exactement. Qu'est-ce qu'on dit?
Alors, on dit, les jeunes gens de Syrie, on arrive. Et ils disent, de Dara à l'attaquer, de Hama à Maïsalon, de Hamoud à l'Qraya. Donc, ils rappellent toutes les villes et les régions de la Syrie. Les gens libres se réjouissent. La dignité au peuple syrien. Et l'humiliation aux traîtres. La mort et non pas l'humiliation. Notre parti et notre honneur. Nous sommes libres, ils ne font pas peur. Salut les Syriens libres.
Alors, faut imaginer, c'est une scène de mariage. Hein. On
exactement.
Voit les gens très bien habillés en train de danser. Exactement. Et avec ces hommes qui dansent et qui se mettent à dire ça.
Exactement.
Et ça, c'est ce qui se passait au début de la révolution en
exactement.
Syrie. Les mariages se transformaient en manifestations politiques.
Exactement.
Mais de la même façon, Sanaya Zighi, les manifestations ressemblait au mariage.
Exactement.
Quand vous avez manifesté pour la première fois, c'était comme un mariage, Sanaya Zighi?
Exactement. C'était une des manifs organisées donc pour qu'on puisse réduire le taux de risque à laquelle on faisait face. Exactement. Donc, j'allais à cet endroit-là que je connaissais pas avec d'autres amis. Et on passe par des petites ruelles pas très éclairées. Et d'un coup, on arrive à une place extrêmement illuminée, décorée. Et tout le monde prend place. Là, ceux qui vont chanter, les autres qui vont jouer sur leur tambour, d'autres qui vont chanter. Et voilà, la foule arrive. Et moi, je me trouve parmi d'autres. Je commence à sauter, je commence à chanter, je commence à crier. Et là, j'entends une voix qui dit « Abat le régime ». Et je m'aperçois que c'était ma voix. Et c'est là où je vis un moment d'existentiel inoubliable. Moi, je n'étais qu'à une seule manif que je vais jamais oublier de ma vie parce que c'était un moment existentiel. Et à ce moment-là, j'ai cru mes amis qui m'ont dit, dans la manif, on craint plus rien. Et moi, avec deux enfants qui attendent à la maison, à ce moment-là, la mort, la vie, mais t'es égal. Je craignais rien. Si je meurs à ce moment-là, c'est pas grave. C'est un moment où j'existe. J'ai senti que j'existais. Je m'exprime, je dis ce que je veux en toute liberté et avec tous les Syriens. Ceux que je connais, mais ceux que je connais pas du tout. On était tous ensemble. Et quand on chante comme ça, de cette façon-là, je pense inconsciemment, on le fait pour serrer les rangs. Pour être capable de faire face à un risque qui existe juste devant nous. Donc, à n'importe quel moment, le service de sécurité peut arriver et tout de suite, soit tirer sur la foule, soit arrêter. Et en Syrie, et pendant les manifs, tous, ça aussi, il faut le dire, tous souhaitaient soit fuir, soit être tués sur place, mais absolument pas détenus. Parce que être détenu, c'est l'horreur.
C'est le pire.
C'est le pire.
En fait, d'une certaine façon, Sanaya Zighi, dans cette manifestation, vous avez entendu votre voix pour la première fois. Comme
oui.
si c'était quelqu'un d'autre qui parlait, c'est
exactement.
Ça. Et vous avez dit, ah mais c'est moi qui parle.
Oui.
C'est moi qui dis à bas le régime.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, après des années et des années, moi j'ai grandi toute ma vie en Syrie. Donc j'ai grandi dans la peur, j'ai grandi dans la pression, dans l'oppression et dans l'interdit. Tout a été interdit. Énormément de choses ont été interdites. Donc, grandir dans cette atmosphère nous fait faire une auto-censure tout au long. Donc, même si on produit cette peur, on la produit et on la transmet aux autres. Donc, s'il y a une amie libanaise qui débarque en Syrie et qui commence à parler, je vais tout de suite lui dire chut, 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 à voix basse.
Personne ne m'a demandé de le faire. Mais moi, je le fais par réaction. Je le fais automatiquement. Parce qu'on est dans une ambiance où il ne faut surtout pas parler spontanément.
Ça veut dire que pendant cette manifestation, la seule où vous ayez été, hein, Sana Yazighi, oui. Plus de peur.
Oui, plus de peur. À ce moment-là, non. J'ai pas eu peur. J'étais prête à mourir. Sur place, c'est pas grave. Mais pas être détenue. Évidemment, on a pris la fuite dès qu'on a entendu les tirs. On a tous pris la fuite. Et les jeunes organisateurs dans ce lieu-là avaient des accès. Ils nous ont dirigés vers les accès pour prendre la fuite. Et c'est ce qu'on a fait. Donc évidemment, on va préférer vivre. Et évidemment que je suis très contente que je suis vivante. Je ne dis pas ça, tous ces détails-là, pour préférer la mort. Pas du tout. Mais juste pour dire qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'on peut faire face à la mort.
Et c'est pour ça que vous n'avez pas voulu manifester encore une fois? C'est parce que vous saviez que vous n'auriez pas peur de la mort quand vous seriez à nouveau dans une manifestation? C'est ça?
C'est en fait ne pas avoir assez de courage pour le répéter.
Encore une fois.
Parce que ça présente beaucoup de risques. Je n'étais pas aussi courageuse comme beaucoup d'autres Syriens. Je le regrette, mais c'est comme ça. Moi, je ne le dis pas autrement. Je ne veux pas, produire plein de contextes, de prétextes, d'arguments pour dire pourquoi je n'ai pas été. Je n'ai pas été. Pour une simple raison. Je n'ai pas été aussi courageuse comme beaucoup d'autres qui se sont sacrifiés. Pour moi et pour tous les Syriens qui ont voulu le changement. Ce changement qui va avoir lieu un jour, moi je suis certaine. Et ce changement, tous les Syriens, même ceux pro-régime, vont en profiter.
Vous n'avez pas manifesté une seconde fois, Sana Yazighi, et vous êtes partie, vous avez quitté la Syrie pour aller au
Liban.
Au Liban.
Tout à fait. Où je m'installe avec ma famille en juin 2012.
En juin 2012, vous pensiez rester au Liban?
Non, on pensait rester quelques mois, parce que tous les aspects militaires commençaient un petit peu à prendre place en Syrie. Donc on s'est dit, puisqu'on a la famille au Liban, parce que le Liban est très familier à nous, parce qu'on aime beaucoup, parce qu'on nous voit toujours durant les vacances. Donc on s'est dit, bon, c'est très proche. On va aller rester quelques mois, respirer un petit peu pour les enfants. Voilà, et on revient dans quelques mois. Sauf qu'on est resté plus de 6 ans.
تعال نجد المنى والغرام كفانا البعد غيام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب أنت الهوى أنت ملء الأمان حياتي أنت فداك أنت دنيا الغد الأحلام الغد والقبل وكل الأمل تعال نجد المنى والغرام كفانا البعد غيام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب أنت الهوى أنت ملء الأماني حياتي أنت فداك أنت
كل
d'avoir parlé.
Jusqu'à 15h sur France Inter, c'est la journée particulière de Sanaya Zighi. Quand vous vous êtes installée à Beyrouth, Sanaya Zighi, vous avez tout quitté. Vous avez quitté aussi le travail que vous aviez à Damas. Parce qu'à Damas, vous aviez créé un journal, je crois, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est une sorte d'agenda culturel et mensuel dans les deux langues arabe et anglais que j'ai fondé en 2007. Donc c'était mon travail. Moi je suis graphiste, donc de formation de base, j'ai fait le Beaux-Arts de Damas. Et donc je faisais cet agenda culturel mensuel que j'ai fermé en juin 2012. Et avec cet agenda, je collectais et publiais les activités, les événements artistiques et culturels.
Qui se passait à Damas.
À Damas et dans les autres villes. Mais tout était concentré, bien évidemment, à Damas. Comme le pouvoir est à Damas, tout est concentré à Damas pour qu'on puisse tout contrôler. Donc ça, en soi, c'était une expérience extrêmement utile et riche pour moi, toutes ces années-là, travaillant dans la publication d'un agenda. Parce que publier en Syrie, c'est pas loin de commettre un crime. Vouloir éditer ou publier, c'est énormément de d'interrogatoires et d'interrogations.
Ça veut dire que ça a été un long chemin pour réussir à faire ce journal culturel, cet agenda culturel sur le modèle de Pariscope d'ailleurs.
Exactement.
En Syrie. Et ce qui, au début, vous publiez avec, je sais plus combien de milliers d'exemplaires, 5000 exemplaires.
Oui.
Et à partir du moment, à partir du début de la révolution, votre journal devient de plus en plus, mince.
Mince, exactement. Alors, dans les meilleurs jours, on arrivait à 40 pages. Donc, 20 en arabe, 20 en anglais, ensemble. Et à la fin, donc en juin 2012, c'était une page recto verso.
Pourquoi?
Alors, ça aussi, c'était une histoire. Février-mars 2011, les petits événements commencent à avoir lieu à Damas. Pour protester les oppressions en Tunisie, en Libye, en Égypte. Et petit à petit, ça s'agrandit. Et il faut dire aussi que j'ai témoigné que parmi ces gens qui manifestent, il y a une bonne partie des acteurs culturels et artistiques. Et ça, pour moi, était surprenant. Parce que tout au long de mon travail dans l'agenda, j'ai aussi témoigné une chose qu'on connaissait tous, les Syriens, c'est que tout ce qui est art et culture est restreint à est très élitiste, à un public très peu nombreux. Avec la révolution, avec cet éclatement, tous voulaient s'exprimer, prendre une place, représenter quelque chose. Et quand je dis la représentation, c'est ça qui fait peur à ces régimes dictatoriaux, parce qu'ils savent très bien que un acteur culturel, il va influencer. C'est pas n'importe qui, c'est pas un simple citoyen. Évidemment, il y a de l'impact, mais quand un acteur culturel connu prend position, c'est là où il va avoir de l'impact. Et avoir de l'impact, c'est influencer. Et influencer, ça veut dire plus de nombre de gens qui vont manifester. Donc, il faut tout de suite arrêter ces gens-là. Et donc, petit à petit, cet agenda a commencé à se réduire. Pourquoi ? Parce que ces acteurs culturels ont commencé à suspendre leurs activités.
Annuler les représentations de leurs spectacles.
Exactement.
Donc, vous aviez de moins en moins de spectacles à annoncer.
Exactement. Et en même temps, moi, j'étais un peu dans l'embarras en voyant ces acteurs prendre position et moi continuer à publier normalement. J'étais très embarrassée et me posais beaucoup de questions sur ma position en moi. Qu'est-ce que je dois faire? Et à un moment donné, j'ai eu ce déclic. Je me suis dit, je dois continuer à publier mon agenda parce que ça va se transmettre en sorte de document qui va être prouver le contre-discours de régime qui disait la Syrie va bien, tout va bien, rien ne se passe. Alors comment ça se fait? Comment ça se fait que les activités se sont réduites à ce point-là si tout va bien?
Et c'est cette idée-là que vous avez gardée en tête quand vous arrivez à Beyrouth, hein, donc en juin 2012, c'est là que vous commencez à avoir l'idée de collecter et d'archiver justement toutes ces formes de création, cette expression qui s'est libérée avec le début de la Révolution, parce que, en fait, Sana Yazighi, vous avez assisté à la naissance d'un art populaire.
Exactement.
Tout le monde s'est exprimé, tout le monde, et vous a dit, il faut archiver ça, parce que c'est notre histoire.
Exactement.
Et qu'on n'en parle pas, d'où l'idée de votre site Creative Memory. C'est bien ça, hein,
c'est bien ça. C'est bien ça, exactement. Ce souci de collecter et d'archiver était là, hein, depuis que, déjà quand j'étais en Syrie. Mais j'étais tellement prise par la révolution, par les actions qui vont soutenir les gens, que j'ai pas eu le temps de réaliser ça. Mais je me souciais de ça. Je me disais tout le temps, qui va collecter tout ça? Parce que c'était énorme par rapport à ce qu'on avait avant.
Alors, un exemple.
يا أسد شعب مل من الأبد والدين وما ولد رح يسترجع البلد من أنيابك يا أسد يا بشار طلع الضوء ما عاد نخاف من العوم يومي رح نشيلك أو بكرة الأيام تحلو يومل
Dans cette chanson, on s'ennuie de Syrian Bear, l'ours syrien. Les paroles, Sana Yazighi, si j'ai bien compris, c'est le peuple s'ennuie, le peuple va reprendre le pays, on s'ennuie de ta mère, de ton père, franchement, on s'ennuie. Alors là, il s'adresse à Bachar el-Assad, évidemment, de ta sœur, de ton frère, de ton beau-frère, on s'ennuie de ta sécurité, de ceux qui sont toujours pour toi, on s'ennuie du chaos de ton régime, de toi, on s'ennuie.
Ça, c'est parmi les initiatives qui ont eu lieu très tôt. En début de la révolution, on parle de juin 2011. Et il y a une histoire drôle derrière cette nomination l'ours brun, parce que l'ours brun est une dynastie d'ours éteinte avec le début du XXe siècle en Syrie. La dernière fois qu'on les a vus dans les années 60, et on lit ça donc à l'arrivée de Parti Baas au pouvoir en Syrie, et l'adoption de ce nom l'ours brun, c'est pour dire comme l'ours brun disparaît. Aussi l'individu syrien, aussi le citoyen syrien disparaît.
En prenant ce nom, ce groupe, en prenant ce nom d'ours syrien, c'est une façon de dire que le citoyen syrien aussi disparaît.
Disparaît à l'arrivée de Parti Baas au pouvoir dans les années 60.
Cette chanson, elle parle de l'ennui de la dictature. Oui. Avant, on avait le groupe Cocotte Minute qui parlait de la pression. Et c'était ça, la vie, avant la révolution. Un mélange d'ennui et de pression.
Exactement. Et c'est ça. Et par ces chansons-là, on voulait peut-être, avec vous aujourd'hui, raconter l'histoire autrement. Parce que ces initiatives-là, on n'a jamais entendu parler ou très peu parler. Par exemple, le groupe Cocotte Minute, ils veulent même pas prétendre qu'ils chantent des chansons politiques. Ils refusaient ça. Ouais. Ils disaient, évidemment qu'on est influencé par tout ce qui se passe et on veut refléter les actualités et le vécu au quotidien. Et ça, c'est très important. Et en ça, pour moi, la révolution a fait un énorme changement chez tout chacun.
Salam alaikum. اليوم حلقة كتير خاصة من همسات ثورية مثل ما تعودتوا علينا نحن دائما بنطرح المواضيع اللي بتهم المواطن اللي عايش في المناطق المحررة بعيدا عن القصف وبعيدا عن النظام اللي كلياتنا صرنا نعرف إجرامه وصرنا أجو كل العالم بيعرف أشو عم بيسوي فينا النظام وعليكم السلام.
Ça, c'est justement une vidéo qu'on peut trouver sur votre site Creative Memory, Sana Yazighi. Alors moi, j'ai vu les images, vous allez m'expliquer ce qui se dit. C'est un homme sur le bord d'une route. Ah, il y a des voitures qui passent, on vient de les entendre. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un jeune homme, qu'est-ce qu'il dit?
C'est un jeune homme qui fait partie du groupe de jeunes de Salaqib. Salaqib, c'est une petite ville de Idlib, en Syrie. Et cette vidéo de ce groupe-là, il encourage les gens à s'exprimer librement. Parce qu'il faut rappeler aussi, donc à ce moment-là, en 2016, cette région-là était entre guillemets libérée. Donc le régime
n'est plus là, mais il y a les forces, de, comment on appelle ça,
il y a toutes les fractions possibles, qui sont là
et qui commencent eux-mêmes à violer les droits de s'exprimer et de vivre librement. Et ces jeunes-là nous ont surpris par cette campagne qu'ils ont lancée, qu'ils ont appelée « C'est ton opinion ».
C'est alors, et le but de cette campagne, c'était de montrer que chaque personne pouvait avoir sa propre opinion.
Exactement.
Et que personne n'avait le droit de lui confisquer ou
exactement.
De la rejeter.
Et ce qui est ce qui était très critique dans cette campagne-là, c'est le rapport entre l'individu et la religion. Ça, on n'a jamais pu imaginer des Syriens prendre le courage pour critiquer comment d'autres religieux, soi-disant, essayent de forcer les gens de s'habiller, de boire, de parler d'une certaine façon, pour dire sous contexte que c'est ça la religion. Cette initiative-là, c'était extrêmement important et c'est très important de rappeler jusqu'où on allait, jusqu'où on a pris le courage de critiquer la religion et les forcer les gens à pratiquer ce qui n'appartient pas du tout à l'islam.
Ces jeunes ont été obligés d'arrêter leur campagne, je crois.
Exactement.
Ils ont été menacés.
Exactement.
Par ces mêmes groupes religieux, par les fractions religieuses.
Exactement. Et il le dit. C'est ça qui est aussi extraordinaire. C'est qu'il produit une autre vidéo pour dire, malheureusement, on suspend. Parce qu'on a été forcé de suspendre par ces forces. Et il dit, honte à vous. C'est à cause de vous qu'on a, parmi d'autres raisons, qu'on a perdu notre révolution.
Alors voilà, ça c'est ce que exactement Sana Yazighi, ce qu'on peut trouver dans sur votre site Creative Memory, c'est d'une richesse extraordinaire. Hein. Il y a des milliers, vous l'avez dit, de documents. Comment vous avez collecté, vous avez fouillé les réseaux sociaux,
C'est Internet.
C'est sur Internet.
C'est Internet parce que tous les Syriens très très tôt, avec l'interdiction de l'entrée des médias libres en Syrie, ont commencé à envoyer toutes leurs œuvres sur Internet. Et à créer des pages et des pages. Et chaque initiative avait comme une porte en ligne pour donc communiquer avec le monde extérieur. Et cet échange entre les deux mondes virtuels et réels, c'est beaucoup ancré dans nos réalités, dans le quotidien syrien. C'est comme si moi, je portais avec ce site, avec mon team, on continuait à porter la voix des Syriens qui n'avaient pas les moyens de faire livrer leur message.
Alors sur le site de Creative Memory, on retrouve des peintures aussi, des affiches, des bannières, des graffitis, des vidéos qui ont été faites pendant cette révolution. Donc pour informer du quotidien, de ce que vivaient quotidiennement les Syriens pendant cette révolution et pendant cette guerre. Et on trouve aussi bien sûr des chansons.
Je ne peux pas sortir. Je n'ai plus de contour. Les corps des autres sont le mien. Une main bouge. C'est peut-être la mienne, la sienne, la nôtre. Je veux bouger.
Tu n'as pas le droit de bouger.
Je veux dormir.
Apprends à dormir debout.
J'ai envie de pleurer.
Pleure, mais sans faire de bruit.
Sana Yazighi, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Ça, c'est une chanson aussi de votre site. Alors, c'est à moitié en français.
Tout à fait. C'est Catherine Vincent avec deux acteurs syriens.
C'est une chanson sur les détenus, sur la prison.
Sur les détenus, exactement. Les paroles sont faites par un sculpteur syrien, Khaled, qui a été donc détenu et qui a écrit ces mots alors qu'il était détenu, pour qu'ils puissent surmonter cette épreuve insupportable.
Alors, juste quelques mots. Les paroles, tout en moi va exploser. Ferme les yeux et imagine que tu es dans une surface qui ne dépasse pas un mètre carré. Entouré de tous ces hommes dans une surface qui ne dépasse pas le mètre carré. Tu manges, tu bois, tu as mal, tu aimes, tu tombes malade, tu dessines, tu joues, tu chantes, tu as faim, tu meurs dans un mètre carré. Je suis compressée dans un mètre carré. Et on le sait, hein, les prisons, comme vous le disiez tout à l'heure, surtout ne pas être emprisonné.
Tout à fait, tout à fait. Et cette expérience-là, là, beaucoup, beaucoup de Syriens l'ont vécu. Donc encore une fois, une chanson peut présenter les épreuves de milliers de Syriens. Et même les deux acteurs qui participent à cette chanson-là ont aussi vécu la détention dans les prisons syriennes du régime.
Avec votre site Sanaa Yazighi, avec Creative Memories, ce que vous avez voulu, c'est écrire votre propre histoire pour ne pas que Bachar el-Assad vous la confisque. C'est ça ce que vous faites, faire entendre les voix de ceux qui, de la révolution, la mémoire, et vous vous sentez dépositaire de la voix des Syriens et de leur mémoire.
En tout cas, je souhaite être fidèle à tous ces Syriens, de porter leur voix. Moi, mais aussi avec beaucoup d'autres initiatives qui archivent, qui écrivent notre histoire, voilà justement pour réapproprier, s'approprier son propre histoire qui nous a été confisquée. Tout a été confisqué, nous a été confisqué. Mais depuis très longtemps, depuis l'arrivée de Hafez al-Assad, parce qu'il faut encore une fois rappeler que ce combat-là ne date pas seulement de 2011, ça date de 50 ans. Depuis l'arrivée de dictateur Hafez al-Assad au pouvoir, et depuis cette souffrance de nos pères, de nos parents, et cette souffrance qui continue, et pour sortir de cette souffrance-là, il faut la décrire, il faut l'archiver, il faut garder espoir, il faut garder les énergies, parce que le chemin, malheureusement, est encore long.
Some they come ask him where he came from, 'cause they've watched him washing his face near the pond. A curious boy, and they wonder where he came from. He says, I've seen the world's most beautiful places. Still I feel as if I'm a walking machine, watching it all through a screen. There ain't nothing in between to me. This might as well not be real. They gather around him, so many of them, they all sing about the pleasures of life, and he cries, why can't I sing along with some feeling or some meaning? It feels like I've always been blind. I don't know why you girls are so kind, for there are so many in line whose lives are as lost as mine. No, no, no. Now something happened there, the smell of the grass, or maybe the air. There was no more despair, just something about that night. Maybe the girls, they lit some light. everything right. Cause he's never been more alive.
Une journée particulière, Zoé Varié sur France Inter.
Alors, Sanaï et Ziggy, on est dans la dernière partie de l'émission. Je vais vous rappeler un peu ce qui s'est passé en mars dernier, en mars 2019, puisque c'est le mois de votre journée particulière. En mars 2019, les manifestations continuaient en Algérie, comme chaque vendredi. Et les Algériens craignaient que la prolongation du quatrième mandat de Bouteflika ne serve à le maintenir encore au pouvoir pour une durée indéterminée. Vous pouvez réagir quand vous voulez. Le 20 mars, l'ex-président des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, est condamné à la prison à perpétuité par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, pour génocide et crime de guerre pour son rôle dans le massacre de Srebrenica en juillet 1995. À Londres, le Brexit n'a toujours pas eu lieu, alors qu'il devait avoir lieu le 29 mars. Et en mars, en France, les Gilets jaunes continuent de manifester. En mars, François Ruffin sort son film documentaire « Je veux du soleil sur les Gilets jaunes », dans lequel il fait le tour des ronds-points occupés par les manifestants.
On est ici depuis quand? Depuis le 17 novembre, pratiquement. On a été démonté, on a été remonté, on a de nouveau démonté et on a reconstruit. À chaque fois, oui. Mais bon, maintenant on attend la police, si elle vient, si elle casse tout, si elle enlève tout. Ouais, et on remontera. On lâche rien de toute manière, rien. C'est notre vie, on est gilets jaunes dans le cœur. Et à fond, hein. C'est vrai. Et puis, depuis le 17 novembre, j'ai retrouvé une espèce de solidarité qu'il y avait entre nous. Ce qu'on n'en avait plus avant. Et maintenant tout le monde est solidaire, on se donne tous main dans la main, dès qu'ils ont un problème, on s'entraide. Et ça, c'est nous, c'est les gilets jaunes. On n'est pas tous casseurs, on n'est pas racistes, on n'est pas des illettrés, on n'est pas des homophobes, on n'est rien de tout ça. Nous, la seule chose qu'on veut, c'est avoir à manger à la fin du mois. Que notre assiette soit remplie. C'est tout.
C'était un extrait de l'émission « Comme un bruit qui court » sur France Inter et c'était un extrait du reportage de Charlotte Perry. Comment vous regardez ça, vous, Sanaï et Ziggy?
J'étais très frappée par ce mouvement Gilets jaunes, très très frappée, surtout frappée par les médias, par les télévisions, les télés françaises, comment ils ont réagi par rapport à ce mouvement qui est tout à fait justifié à mes yeux. Et comme le monsieur l'a dit, il faut arrêter de dire qu'on est raciste, mais ça, c'est pour vraiment faire oublier de quoi il s'agit exactement, ce mouvement. Donc moi, j'étais tout le temps en solidarité avec ce mouvement, et j'ai même écrit à mes amis, et j'ai vu les amis français, les amis syriens en France, et on a pas mal rigolé sur la comment dire les points qui nous ressemblent et qu'on a vécu aussi, et ces accusations d'être infiltré, d'être casseur, d'être pas avoir de programme, pas appartenir à une parti politique, tout ça. Et même quand les gilets jaunes ont dit mais on n'a pas de leader, parce que nous chez nous aussi ils nous ont accusé de ne pas avoir un leader qui parle à notre nom, alors qu'on disait mais on est tous là, on est par milliers, centaines de milliers dans les rues pour dire les mêmes choses. Donc écoutez les réclamations, peu importe qui les dit. Ça nous a beaucoup, beaucoup rappelé nos mouvements. Et même, j'ai entendu parler des gilets jaunes qui disaient, eh ben voilà, le printemps arabe nous a inspirés. Moi, je pense, en tant qu'individu, en tant que, donc, Sana, qu'on est mal partout. Mm-hmm. Et qu'on subit le même système économique, politique, qui écrase l'individu. Là, la force, c'est la force qui fascine tout le monde. Et la force, Poutine, il est criminel, mais il fascine de plus en plus. On veut s'identifier avec celui qui est fort. Fort pas par ses valeurs, non. Fort par cette force criminelle qui écrase. Il faut regarder ça en plein yeux pour pouvoir analyser ces nouveaux phénomènes qui fascinent de plus en plus, et surtout, le plus dangereux, les jeunes.
Je continue, Sanaï et Ziggy. En mars dernier, la coalition internationale s'empare de la page de Baghouz et nous dit que c'est la fin du dernier territoire que détenait l'État islamique.
Voici le vaste campement monté par les quelques milliers de membres du groupe État islamique pour résister à l'assaut de la coalition. Ici, au milieu de tentes en lambeaux, ce combattant kurde nous montre les trous que les djihadistes ont creusés dans la terre pour se protéger.
Ils se cachaient dans ces tranchées, mais avec les bombardements, ils ont dû s'enfuir.
Un peu plus loin, nous entrons dans la tente d'une famille. Elle a été abandonnée à la hâte. À l'intérieur, les restes de leur dernier repas et des munitions, comme à l'extérieur. Ici, des obus de mortier. Là, une roquette. Suspendue à cette corde à linge, la signature des occupants des lieux.
C'est un drapeau du groupe État islamique.
Sana Yazighi, j'aimerais avoir votre regard sur ces informations.
Moi, ça m'attriste et c'est très frustrant. C'est frustrant quand on regarde comme ça comment les forces internationales cherchent une victoire à tout prix. Et on sait très bien que ce sont des gains et pour des fins politiques et électoraux. On sait très bien qu'on cherche pas à vaincre les valeurs et les intérêts de tout chaque humain là où il est. On cherche pas à protéger les gens chez eux et à se battre avec eux. On cherche à vendre les armes, parce que combattre Daesh, c'est bien, c'est l'ennemi idéal de tout le monde. Parce que ça rejoint les intérêts géopolitiques et les ventes des armes, et c'est des victoires faciles.
Qui camoufle et qui cache les échecs
internes.
Oui, c'est ça, parce que vous me parliez de l'obsession de l'Occident, l'obsession de Daesh.
Exactement. L'obsession de Daesh, parce que c'est l'obsession aussi de l'islam. Et moi, je peux parler et défendre, parce que, et je le dis pas, évidemment, parce que je le dis pas tout le temps, je le dis quand il le faut. Moi, je suis chrétienne de Syrie. Je suis syrienne avant tout, mais je suis chrétienne quand il s'agit de l'islam. Je le dis quand il s'agit de l'islam. Parce qu'on a beau voulu diaboliser l'islam, et alors en laissant les dictateurs tranquilles. Comment ça se fait qu'on diabolise l'islam et on laisse les dictateurs tranquilles là où ils sont, en train de tuer, de torturer, de détruire, pas seulement les gens, mais tout un pays. Et il faut aussi rappeler que tous ces Syriens qui ont résisté Bachar al-Assad sont les mêmes qui ont résisté Daesh, Nusra et toutes les fractions armées. Et les victimes sont les mêmes. Donc on a laissé, on a abandonné, et on abandonne toujours les civils au prix des intérêts géopolitiques.
Merci Sana Yazighi d'avoir passé cette heure avec nous. Vous avez réalisé un premier livre autour de votre travail d'archives qui s'intitule « Chronique de la révolte syrienne, des lieux, des hommes, 2011-2015 » aux éditions de l'IFPO, de l'Institut français du Proche-Orient. Toutes les coordonnées sont sur le site de l'émission et votre site internet, donc en français, en anglais, en arabe, creativememory.org. Aussi le lien sur le site de l'émission. C'était une journée particulière. Une émission préparée par Rebecca de Nantes, Alina Anne de Lavaux, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique Alexandre Chenet. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Sana Yazighi.
Merci beaucoup Zoé pour vous, pour cette invitation.
Tout de suite après le flash, ce sera Vincent Josse et son grand atelier.